Le grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois, c'est à vous.
Merci Antoine Mercier. Après la France, c'est donc l'Allemagne qui a été frappée hier par un individu se revendiquant de Daesh. Mohamed Riyad à Wurzburg, Mohamed Lawesh Boulel à Nice, la Rossi Abala à Magnanville. En quelques semaines, les soldats du califat, comme ils sont désignés dans les revendications de l'État islamique, se sont multipliés. Soldats et pas lions du califat. La nuance, paraît-il, est importante car elle distinguerait ceux qui prennent seuls l'initiative de commettre un attentat de ceux qui participent à des opérations commanditées directement par Daesh, comme lors du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. On a beaucoup parlé, y compris ici même à ce micro, de cette diversification des modes opératoires. En revanche, on ne les a pas toujours replacés dans une stratégie globale. Si Al-Qaïda crée des franchises, l'organisation État islamique semble plutôt privilégier un système décentralisé d'auto-entrepreneurs de la violence. Alors, peut-on parler d'une uberisation de Daesh ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en parler ici en studio. Wassim Nasr, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France 24, auteur de « État islamique, le fait accompli ». C'était publié chez Plon, juste à côté de vous, Jean-Dominique Mercher, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste également à l'Opinion. Vous avez également un blog sur le site de l'Opinion qui revient sur ces questions-là et qui est très très précis au jour le jour sur les questions de sécurité, de défense et sur la menace, l'action de menace terroriste. Et en face de vous, enfin, Jenny Raflik, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Cergy-Pontoise et auteur récemment chez Gallimard d'un essai très intéressant et très important, Terrorisme et mondialisation, approche historique, important parce qu'il permet de recontextualiser, de remettre un petit peu de perspective historique, on va dire, dans ces événements qui nous touchent au jour le jour, dont on a l'impression souvent qu'on est un peu, voilà, qu'on est pris dedans et qu'on a un peu de mal à, souvent à prendre du recul et à comprendre un petit peu comment ils se situent les uns par rapport aux autres. Alors, peut-être une première question à tous les trois, puisque je viens de le rappeler, trois événements récents, trois attentats récents, il y en a évidemment beaucoup d'autres ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que, justement, ce qu'on voit apparaître, notamment à l'occasion de Nice ou à l'occasion là de Wurzburg, c'est une forme nouvelle, un profil nouveau de terroriste qui serait en train d'émerger, plus isolé, plus spontané, Wassim Nasr?
Écoutez, on a déjà fait face à ce genre de profil. Je pense par exemple aux frères Tsarnaev à Boston, qui étaient inspirés par Al-Qaïda, qui ont agi tout seuls. Il y a d'autres exemples, mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplication et un grand nombre de personnes qui sont, il faut le dire, prêts à agir au nom de l'État islamique. Et ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est que ce nombre qui s'est multiplié et l'État islamique qui donne une sorte de carte blanche à ceux qui veulent agir en son nom pour agir. C'est-à-dire, le porte-parole Adnani, il y a plusieurs mois, il a fait un discours en disant « Tapez en Occident, frappez en Occident par n'importe quel moyen ». On a oublié un discours qu'il a fait le 21 mai dernier en appelant... il a dit, des plaintes me sont parvenues, texto, d'aspirants djihadistes ou de djihadistes qui sont présents en Occident et qui se plaignent de l'absence de cibles militaires. Alors il leur dit, tapez des civils, il n'y a pas d'innocents en Occident, et même c'est mieux pour nous parce que ça fait plus mal et parce qu'il met dos à dos ce qui se passe en Syrie, en Irak, les frappes, et cette vengeance, cette loi du talion qu'il veut appliquer aussi. Et là on voit qu'il y a eu des personnes qui ont été prêtes à agir et qui ont agi au nom de cet appel.
Jean-Dominique Marché.
Oui, il y a quelque chose d'extrêmement moderne dans ce qui est en train de se passer en termes de terrorisme. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure d'auto-entrepreneur, mais c'est exactement ça. On est dans une...
Je voulais un petit peu emprunter.
Une sorte... Alors voilà, c'est un échange de bons procédés. Nous sommes effectivement dans une sorte d'économie collaborative de la terreur, en quelque sorte, où vous avez des gens qui s'instituent auto-entrepreneurs du terrorisme, de la terreur, et au fond, ce que fournit Daesh, c'est un logiciel comme son porte-parole, Elad Nani, qui disait empoisonnez-les, foncez en voiture dessus, jetez-les du haut d'un lieu élevé, poignardez-les. Enfin, voilà, un logiciel et surtout, en plus, un formidable système de communication qui donne une résonance mondiale à n'importe quel geste imbécile, criminel, d'un petit Afghan de 17 ans qui attaque quatre malheureux Chinois dans un wagon d'un train de banlieue d'Allemagne. Tout d'un coup, cette affaire devient un phénomène mondial, avec une résonance extraordinaire. Donc effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement moderne, qui ne remplace pas le terrorisme qu'on a connu avant, mais qui vient s'y ajouter.
Il
l'explique. Uber n'a pas remplacé les sociétés de taxi. Comme la télévision n'a pas remplacé la radio, on en est ici la preuve vivante. Donc ça vient se rajouter et donc le problème c'est que on a beaucoup de mal à répondre à cette nouvelle forme de terrorisme ultra moderne.
On aura l'occasion d'en parler, mais je voulais vous entendre, Jenny Raflick, justement sur cette notion de modernité, de nouveauté, de ces actes spontanés, isolés.
Alors, c'est à la fois très moderne, effectivement, dans ce sens où on a ce système de franchise, d'auto-entrepreneurs qui se mettent au service d'une franchise qui leur offre la publicité, les moyens de communication. C'est ça, quelque chose de très contemporain. Et puis, ça ne l'est pas parce que ce type d'action, finalement, on le trouve déjà chez les anarchistes, des hommes qui agissent tout seuls de leur propre initiative. Alors, évidemment, ce n'est pas comparable. On ne va pas comparer Daesh et les anarchistes, ne serait-ce que parce que l'idéologie n'est pas du tout la même et que chez les anarchistes, par rejet de la hiérarchie, par définition, ils ne peuvent quasiment qu'agir seuls. Mais finalement, on a déjà vu ce type de mode opératoire, en tout cas, d'hommes seuls, y compris d'hommes désespérés. Auguste Vaillant, par exemple, qui lance sa bombe dans le palais de Bourbon, voulait se suicider et pour donner un sens à sa mort, pour donner un sens à sa vie par la mort finale, il va utiliser ce mode opératoire.
Vous avez parlé de gestes désespérés. Justement, on a vu émerger, notamment, je pense à une interview de Farhad Khosrokavar, qui est professeur à l'EHSS, spécialiste des questions de déradicalisation, notamment, je crois que c'était dans Le Point récemment, insistant sur la dimension presque pathologique de l'acte de Mohamed Lawej Boulel, sous-entendant que quand on passe seul à l'acte, c'est-à-dire sans être passé même par la case radicalisation, on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi. Bon, il faut prendre tout ça avec beaucoup de pincettes, hein, parce que l'enquête est en cours, on n'est pas encore tout à fait certain de tous les éléments qui ont précédé l'attaque de Nice, mais malgré tout, est-ce qu'on a toujours vu apparaître, Jenny Raflick, cette question du déséquilibré, parce que c'est un acte isolé, parce qu'il n'est pas commandité, parce qu'il n'appartient pas à une stratégie qui semble véritablement établie, est-ce qu'on a toujours eu cette question de dire c'est un déséquilibré?
Alors, c'est une très vieille question que se posent les chercheurs. Le terroriste est-il fou? Parce que sa rationalité est une autre rationalité que la nôtre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une rationalité. Et c'est là, alors je ne rentrerai pas dans les débats psychiatriques, mais il y a une stratégie terroriste. Et finalement, la violence ultime, la violence qui est une forme de provocation qui appartient à une stratégie qui, elle, est rationnelle, qui vise à un objectif. Donc on a une rationalité qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle du terroriste.
Oui, tout à fait. Il faut rappeler, à chaque fois, on cesse de rappeler que le terrorisme est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen au service d'un projet politique rationnel, quel qu'il soit, et même s'il est condamnable, donc sans porter un jugement de valeur. Et le terrorisme a été utilisé à différentes époques dans l'histoire humaine, et ça n'a pas été inventé ni par Al-Qaïda, ni par l'État islamique. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut prendre en considération. Et il faut aussi savoir qu'en tout cas, en ce qui concerne les mouvances djihadistes, quand une personne rentre dans une mouvance djihadiste, il y en a beaucoup, le profil donc ancien criminel est fréquent, très très fréquent même, c'est aussi dans une démarche de rédemption. C'est aussi pour qu'il se fasse absoudre, si je puis dire, de ses péchés passés et mourir en martyr au nom de cette idéologie est le cadeau ultime parce qu'il se fait absoudre et aussi il peut intercéder dans leur dogme pour 70 personnes de son entourage. Et donc il y a beaucoup de personnes, même le fondateur d'Al-Qaïda en Irak, donc Zarqawi, un des fondateurs de l'État islamique, était un ancien délinquant tatoué qui avait un passé criminel. Donc cette dimension-là, il ne faut pas l'oublier, elle n'est pas exceptionnelle non plus, parce que si on revient dans l'histoire, c'est toujours bien d'avoir une profondeur profondeur historique, on sait très bien que même pendant les croisades, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint les croisés dans ce but de rédemption. Donc c'est des nouvelles formes d'anciens débats qui ont animé donc l'humanité et d'anciens combats radicaux, quels qu'ils soient et appartenant à une religion ou à une autre.
Jean-Dominique Mercier, puisqu'on est dans ces processus de radicalisation et qu'on parlait de cette dimension individuelle véritablement de la radicalisation et du passage à l'acte, il faut évidemment parler de cette question de la radicalisation sur Internet qui rend à la fois plus difficile le repérage des terroristes potentiels et en même temps voilà, qui rend presque incompréhensible, en tout cas vu de l'extérieur, la mécanique qui amène quelqu'un comme Lawesh Boulel à passer très très rapidement de fêtard à terroriste.
Oui, je crois qu'il y a, comme d'habitude, on est face à plusieurs facteurs et ils ne s'excluent pas l'un l'autre. Faut pas opposer quelqu'un peut être dingue et manifestement il y a beaucoup de dingues dans ces mouvements et en même temps ils peuvent réellement avoir un projet politique. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc là effectivement on a la question de la radicalisation sur Internet, ben, au fond, tout se passe sur Internet aujourd'hui. Donc, c'est pas étonnant que ces gens, dont le principal média d'information soit les réseaux sociaux, et, y compris des réseaux sociaux un peu clandestins, là où on va chercher des choses qui ne sont pas autorisées dans les réseaux sociaux propres sur eux, comme Facebook ou Twitter. Donc, effectivement, c'est bien naturel que ça se passe là. Alors comment fait-on pour déradicaliser, puisque en pointillé vous posez la question de la déradicalisation, très honnêtement, moi personnellement je n'ai absolument aucune réponse et je n'en vois pas beaucoup de très convaincantes surgir dans le débat d'aujourd'hui.
Ouais, c'est bien sur cette question de la radicalisation sur Internet.
Bah écoutez, déjà moi j'estime, pour rebondir d'abord ce que dit Jean-Dominique, la déradicalisation, que je sache, déjà le mot radicalisation c'est pas très approprié parce qu'il y a une idéologie politique derrière, c'est pas une maladie, c'est pas pilule rouge, pilule verte, la personne est déradicalisée. Il y a des personnes qui font le chemin inverse, mais c'est toujours une démarche très 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 personnelle. Et en ce qui concerne Internet c'est un moyen. Donc c'est un moyen de communication. Ça veut dire, l'idéologie, elle n'est pas créée sur Internet, elle est véhiculée par Internet, comme d'autres idéologies avant ont été véhiculées par l'imprimerie, par exemple. Donc, pour revenir au tueur de Nice, on parle de radicalisation express, on invente toujours des mots, mais bon, personne n'était dans sa tête pour savoir à quel moment ça a commencé à cheminer, à quel moment il a commencé à être attiré par cette idéologie pour finalement arriver à commettre cet acte. Et on sait très bien, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le profil d'ancien criminel, le profil de mauvais musulman, tel qu'on dit, qui connaît pas son Coran, il est très 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 fréquent. Et dans d'autres expériences humaines et révolutionnaires, parce que moi j'estime que c'est révolutionnaire dans le sens où c'est contre, pas dans le sens ni positif ni négatif de la chose. Donc il y a plein de jeunes qui ont rejoint des mouvements communistes radicaux violents et qui ne connaissaient pas Karl Marx par cœur. Donc c'est un non-sujet.
Si je me permets de rajouter, on sait depuis Hannah Arendt et depuis ce livre formidable qui s'appelait, je crois, Des hommes ordinaires d'un historien anglais, Browning, que des hommes tout à fait ordinaires, tout à fait d'une banalité absolument affligeante, peuvent, parce qu'ils sont pris dans un mécanisme idéologique et parce qu'ils ont peut-être des prédispositions psychologiques à cela, commettre des horreurs absolues. Je fais référence à des choses qui concernent la Shoah. Et aujourd'hui, on voit des gens qui peuvent être, au fond, en quelques... des gens qui peuvent être à peu près normaux, en quelques mois, devenir des égorgeurs épouvantables. Donc, on ne fait que relire au travers de l'affaire de l'État islamique des questions qu'on s'est déjà beaucoup posées dans l'histoire du nazisme.
Oui, mais que malgré tout, qui malgré tout trouve là un élément de nouveauté, c'est cette dimension, encore une fois, individuelle. C'est-à-dire, quand on pense évidemment aux Einsatzgruppen de la Seconde Guerre mondiale, il y a un esprit de corps, c'est un ensemble.
Là, mais là aussi, il y a un esprit de corps. Mais l'esprit de corps, il passe
tout
par
seul
le réseau
devant
social.
Son écran.
Il est globalisé.
Il est globalisé, il passe dans le réseau social.
Jenny Raffleck.
Oui, par le réseau social. social, finalement, on va rejoindre un corps. Ces questions, effectivement, elles font écho à des débats très anciens sur la violence des nazis. Au moment de la vague anarchiste, la presse s'étonnait beaucoup que des gens d'origine bourgeoise puissent adhérer au mouvement anarchiste. Ça semblait déjà totalement presque inacceptable, finalement, puisque ça correspondait pas à l'image qu'on avait des classes laborieuses dangereuses et ça remettait beaucoup d'a priori en cause. Et depuis les années 70-80, beaucoup de gouvernements occidentaux ont commandé des études psychologiques, sociologiques, assez nombreuses sur les profils de terroristes de tout groupe. Et que nous apprennent toutes ces études, qu'il n'y a pas un profil de terroriste.
Ça n'existe pas, le profil.
Ça n'existe pas. Au sein même d'organisations, d'une seule organisation, on va trouver des gens très différents. On a des études très précises qui comparent le profil des membres des Brigades Rouges aux membres de la bande Abadère, par exemple, en Allemagne. On pourrait se dire, même période, même idéologie, à peu près. Pas du tout les mêmes profils, ni sociaux, ni psychologiques, pas les mêmes itinéraires, pas les mêmes parcours. Il n'est pas du tout rare de voir des gens qui étaient très bien intégrés, qui, dans des professions libérales, des journalistes, des enseignants, qui se radicalisent, puisqu'on utilise déjà le mot aussi à l'époque, très très vite, et qui vont dans la violence politique. Donc finalement, il n'y a pas de profil.
Jenny Raffly, puisqu'on est sur la question des mots et des définitions, on a vu juste après l'attentat de Nice, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, hésiter, ou plutôt dire oui, c'est un acte terroriste, c'est avéré. En revanche, sa dimension, les liens avec un groupe islamiste ne sont pas avérés. Et donc, on voit qu'il y a la possibilité de définir l'acte terroriste immédiatement, et en revanche, une hésitation sur le lien qu'il faut faire avec l'islamisme radical. Qu'est-ce qui permet de définir l'acte terroriste? Est-ce que, je sais que la question de la définition, elle est compliquée, mais malgré tout, est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu là-dessus? Et après, j'aimerais entendre nos deux autres intervenants sur cette question.
Oui, alors précisément, il n'y a pas de définition juridique universelle du terrorisme. Chaque État, elle n'existe pas. On la cherche depuis deux siècles.
Pour des raisons politiques.
Oui. Pour des raisons politiques,
tout à fait. Pas pour des raisons académiques, pour des raisons purement politiques.
L'ONU a même officiellement renoncé à tenter de la définir. Voilà. Ils ont préféré dire qu'ils n'essaieraient même plus. Le comité en charge de la lutte antiterroriste à l'ONU a dit clairement qu'ils ne le feraient pas. On a beaucoup de définitions. En général, elles retranscrivent les intérêts et les priorités des États concernés. Chacun définit en fait son ennemi premier de façon plus ou moins large. Et puis, la difficulté de la définition, et là, c'est en partie ce qui se posait, c'est la question de l'insertion du mode opératoire terroriste dans des stratégies qui sont plus larges. Et finalement, le mode opératoire qu'est le terrorisme, en général, va être utilisé en lien avec des organisations qui ne sont pas que terroristes. Alors, est-ce qu'on considère que tout ce qui est commis par une organisation dite terroriste et terrorisme, ou est-ce qu'on va au contraire dissocier différents éléments, comment les caractériser? C'est toujours très complexe, puisqu'on voit très fréquemment, alors c'est le cas avec l'État islamique, ils ont des actions qui sont des actions militaires type classique, des actions type guérilla, des actions type commando, des actions plus individuelles, on a une multiplicité d'actions.
Oui, c'est bien ça.
Et économique.
À partir de ce que vient de dire Jenny Raffly, justement sur cette distinction entre les actions militaires et les actions terroristes de l'État islamique, de l'organisation État islamique, est-ce qu'à partir du moment où Daesh abandonne finalement le fait de commanditer, alors il continue de commanditer des attentats, est-ce qu'on peut toujours parler de stratégie?
Mais bien sûr, c'est bien sûr qu'il y a une stratégie derrière, parce qu'il y a plusieurs articulations de la politique et de la stratégie de l'État islamique. Il y a une stratégie régionale avec une guerre militaire, avec une vraie guerre sur place en Syrie, en Irak, en Libye, en Afghanistan, on oublie l'Afghanistan, et il y a d'autres sphères où ils opèrent autrement. On a eu le 13 novembre. On parlait de profil. On a eu le Bangladesh il y a encore quelques semaines. Les assaillants au Bangladesh, c'était des étudiants en université, haute classe moyenne.
On se rappelle aussi que lors des attentats du 11 septembre, beaucoup des terroristes d'Al-Qaïda étaient issus de classe moyenne.
Donc ça, on ramène au fait qu'il n'y a pas de profil, parce que dans un groupe, dans une organisation, dans un proto-État comme l'État islamique, il faut de tout. Voilà. Et donc, ils n'abandonnent pas un mode pour l'autre. Rappelez-vous que les autorités françaises ont arrêté Rida Cricket il y a encore quelques semaines. Et Rida Cricket préparait des attentats similaires, d'après ce qu'on a pu comprendre, à ceux du 13 novembre, ou du moins à ce qui s'est passé à Bruxelles. Donc ça va de pair. À chaque fois, on dit, ils commettent des attentats ici parce qu'ils sont sur le recul là-bas. Non. On dit qu'ils sont sur le recul, ils ont fait le 13 novembre. On dit qu'ils sont sur le recul, ils ont descendu un avion de ligne russe avec une canette piégée. Et ils arrivent en même temps à inciter des gens à agir en leur nom. Après, quelle est la nature du lien entre ces personnes et le groupe? C'est ça aujourd'hui qui est différent par rapport au terrorisme ancien, parce que le lien physique n'est pas forcément requis, si je puis dire. Un lien virtuel peut suffire. L'attaquant d'Orlando, les autorités américaines ont dit qu'il n'avait pas de lien, mais moi je vous dis par exemple que un de ses meilleurs amis était le premier américain à se faire à mourir en kamikaze dans les rangs d'Al-Qaïda en Syrie. Donc il y a à un certain moment peut-être eu un lien avec un autre membre qui avait rejoint l'État islamique. Le tueur, il a réussi à tuer personne, l'assaillant afghan, il a quand même envoyé sa vidéo à l'organe de propagande de l'État islamique, et donc ils l'ont revendiqué. Donc du moment où l'acte criminel a une portée politique, il devient terroriste, on ne peut pas lui nier.
Et il rentre dans la stratégie
exactement, il rentre dans la stratégie du groupe, on ne peut pas ramener tout à la psyché des exécutants et de ce que j'appelle les petites mains du djihad.
Jean-Dominique Merche, ce que vient de dire Wassim Nas pose également la question, évidemment, de la revendication, du système de revendication de Daesh aujourd'hui.
Oui, mais je partage totalement ce qui vient d'être dit. C'est ce qui caractérise le terrorisme, c'est son côté politique. C'est une revendication politique, c'est un projet politique. C'est pas
mais qui dit politique dit chef politique. Qui est-ce qui prend la décision à ce moment-là?
Alors, est-on face à des organisations extrêmement structurées? Oui, manifestement. Mais quel est leur mode opératoire? On est passé de modes opératoires extrêmement verticaux, avec des ordres qui étaient donnés, avec des systèmes un peu militaires, au fond, ou qui ressemblaient à ceux des services secrets, à ce qu'on abordait en début d'émission sur le côté de cette économie nouvelle, beaucoup plus décentralisée, avec un système de réseau, avec... on est passé de la pyramide...
Ça va de pair, en tout cas.
On est passé de la pyramide au réseau, en quelque sorte. Et oui, la revendication reste quand même un des éléments centraux de cette affaire, puisque c'est elle qui donne le sens politique de l'affaire.
Est-ce que c'est le passage, Jenny Raflick, de Al-Qaïda à Daesh, en quelque sorte, ce passage de l'organisation verticale à une organisation plutôt horizontale?
Al-Qaïda avait déjà des succursales. Hein. Al-Qaïda avait déjà un fonctionnement qui était un fonctionnement mixte avec une cellule centrale et puis des cellules autonomes qui d'ailleurs parfois sont devenues tellement autonomes qu'elles ont fait sécession et certaines... On voit qu'on a une concurrence entre Al-Qaïda et Daesh assez tôt puisque certaines cellules autonomes d'Al-Qaïda prêtent allégeance à Daesh dans des mouvements qui sont parfois pas... Enfin, qui semble pas forcément très 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 contrôlé d'en haut et très clair sur le terrain, un peu par opportunisme. On a déjà cette structure et on peut même se demander si on l'a pas déjà avant dans d'autres types d'organisations. Je pense aux groupes d'extrême gauche des années 70-80. Ils sont très nombreux. Ils agissent dans différents pays, mais chaque pays a son organisation. Il n'y a pas une hiérarchie. Hein. On a dit à l'époque parfois que c'était commandité de Moscou ou de Chine. Bon. A priori non, mais il y a des contacts, il y a des échanges, il y a des opérations communes. On a déjà aussi une forme d'internationalisation.
Bah écoutez, déjà, pour rappel, Al-Qaïda, dans son journal anglophone Inspire, a appelé à des attaques avec des voitures béliers dès 2010. Et ce qui est différent entre Al-Qaïda et l'État islamique, c'est que Al-Qaïda a voulu créer des groupes locaux, même des fois en leur enlevant le logo Al-Qaïda ou l'appellation Al-Qaïda. Pour donner des exemples, on a Ansar Sharia en Tunisie ou Ansar Sharia en Libye, parce qu'ils voulaient que ces groupes s'ancrent dans les dynamiques locales. Et ça s'est matérialisé le mieux, si je puis dire, entre guillemets, en Syrie, avec le Front al-Nusra, qui est complètement imbriqué aujourd'hui dans la structure de la révolution ou rebelle syrienne. Alors que de son côté, l'État islamique veut tout centraliser. Et dès qu'un groupe lui voue allégeance, ça devient une wilaya, un gouvernorat de l'État islamique, comme qu'on a vu avec un groupe Ansar Beit Maqdes au Sinaï, qui est aujourd'hui devenu la wilaya ou le gouvernorat du Sinaï, ou même avec Boko Haram, qui est un exemple assez emblématique, qui est devenu le gouvernorat d'Afrique de l'Ouest pour l'État islamique. Donc, ces un groupe centralisé avec un commandement central, avec un calife central, comme je dis dans mon livre, mais tout à fait remplaçable, mais avec une liberté d'action au niveau de chaque région. Et en ce qui concerne, il ne faut pas confondre ça, cette structure centralisée, avec les appels, les incitations à commettre des attentats terroristes qui peuvent éclater à n'importe quel moment et n'importe où par des individus avec très peu de moyens, finalement. Ça veut dire le commando du 13 novembre, en achetant des armes, en fabriquant des explosifs, ce n'est pas du tout un camionneur, un chauffeur de camion qui loue un camion et qui décide d'écraser des gens sur la promenade des Anglais. C'est deux modes opératoires différents, mais au service de la même idéologie, au service du même État islamique.
Jean-Dominique Mercher, ce changement de stratégie, finalement, dont on est en train de parler depuis le début de l'émission, on a fait le lien avec ce qui se passe en Irak et en Syrie, c'est-à-dire la question militaire, voilà, ça a été évoqué par Wassim Nas. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une stratégie qui répond à une plus grande difficulté aujourd'hui de recruter, c'est-à-dire de faire venir des djihadistes étrangers? Les passages sont moins faciles aujourd'hui, nous dit-on. Voilà, est-ce que c'est, il faut aussi voir ça comme une façon d'exporter ce qu'on ne peut pas importer finalement sur le terrain d'opération?
Oui, en partie, vous avez raison, mais je pense que c'est conjoncturel, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État il est plus difficile aujourd'hui d'aller en Syrie
et d'en revenir, aussi,
et d'en revenir que c'était encore le cas il y a quelques mois ou il y a un an. En même temps, ça ne doit pas nous masquer l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes quand même face à une sorte de mouvement de masse qui mobilise des milliers de gens. Il y a assez peu dans l'histoire de l'Europe, je pense qu'il faut remonter aux brigades internationales pour voir autant de jeunes décider de partir se battre dans un pays étranger pour une cause révolutionnaire, quelle que soit l'idéologie, les différences d'idéologie, mais on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que ça concerne des milliers de jeunes à travers l'Europe et encore plus dans le monde arabe. La petite Tunisie, par exemple, 10 millions d'habitants, c'est, je crois, 7 000 combattants. C'est énorme. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de... Ce ne sont pas des petites cellules clandestines, 3-4 gars par ici. Non, non, ce sont des milliers de gens, peut-être des dizaines de milliers de gens qui sont mis en mouvement par cette idéologie. Et c'est ça le problème. Alors, effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, c'est plus difficile, donc les coups peuvent être portés ailleurs, mais je crois qu'ils portent les coups là où ils peuvent les porter en permanence.
Jenny Raflick, cette dimension multinationale, pour filer cette métaphore qu'on utilise depuis le début malgré tout, cette métaphore économique, pour comprendre un petit peu ce nouveau modèle de Daesh, cette dimension internationale, est-ce qu'elle est, comme le vient de le dire Jean-Dominique Mercher, voilà, innovante, inédite, ou même s'il faut remonter aux brigades rouges comme il le fait à l'instant?
Non, pas aux brigades rouges, aux brigades internationales,
excusez-moi.
Les brigades rouges n'ont pas mobilisé.
C'est vous qui en avez parlé tout à l'heure des brigades rouges.
Précisément, je crois que là, la nouveauté, elle est effectivement dans le nombre, dans la masse. Le terrorisme n'a jamais mobilisé des foules, hein. Que ce soit.
Sauf en ce moment.
Alors, sauf en ce moment, mais précisément parce que, justement, les anarchistes sont très peu à pratiquer la propagande par le fait au sein du mouvement anarchiste. C'est vraiment une infime minorité. Les groupes d'extrême gauche des années 70-80, les individus qui pratiquent la violence terroriste sont aussi une minorité dans ces groupes d'extrême gauche, dans ces mouvements politiques. Ça n'a jamais effectivement touché des chiffres aussi importants qu'on le voit aujourd'hui. En ce qui concerne le côté international, là par contre on le retrouve effectivement chez les anarchistes. Alors les anarchistes pour des raisons différentes. C'est pas d'abord les frontières qu'ils conçoivent dans leur idéologie, ce sont pas les frontières géographiques, politiques, ce sont les frontières sociales. Et puis surtout, les anarchistes fuient. Ils fuient les répressions au fur et à mesure, et souvent ils agissent dans les pays où ils se sont réfugiés. Et là, ils, il tue sans considération de nationalité. Alors, vous disiez tout à l'heure, un Afghan qui tue en Allemagne, enfin qui agresse en Allemagne des Chinois. On a le cas d'un anarchiste italien qui s'en prend à Elisabeth d'Autriche, donc une Autrichienne née allemande en Suisse. On a finalement les nationalités comptent peu dans ces pratiques. Et puis dans les groupes des années qui sévissent dans les années 70-80, ils travaillent tous ensemble. On a vraiment des collaborations. Alors des collaborations entre types de terrorisme à l'époque très différents. C'est la période où ça se professionnalise en fait. Terrorisme indépendantiste, ETA, IRA, ces organisations travaillent avec la bande Abadère, avec les groupes palestiniens, des idéologies qui n'ont rien à voir, des objectifs qui n'ont rien à voir finalement, mais une professionnalisation et donc une internationalisation.
Du savoir-faire partagé.
Un savoir-faire partagé.
Voilà. Mais aujourd'hui, il faut rappeler aussi que il y a une dimension quand même religieuse de la chose.
Oui, ce qui n'y a pas effectivement du tout avant.
Ce qui était absent avant. Donc aujourd'hui, l'absence de la reconnaissance des frontières et l'absence de cette... c'est pas un combat anticolonial, c'est un combat contre tout. C'est pour ça que je dis que c'est révolutionnaire. Donc c'est révolutionnaire contre les États de la région qu'ils estiment corrompus, contre l'islam traditionnel, contre les structures claniques et aussi contre l'Occident, contre le capitalisme, avec une dimension religieuse et apocalyptique.
Il y a aussi un point qui mérite d'être noté, c'est que quand on pense aux anarchistes du 19e siècle ou aux brigades rouges ou à la fraction armée rouge en Allemagne ou d'autres mouvements terroristes, ils pratiquaient un terrorisme ciblé sur des individus ou des lieux à haute valeur ajoutée symbolique, c'est-à-dire on s'attaquait. En France, on a assassiné, les anarchistes ont assassiné un président de la République, ils ont jeté, aidez-moi, quel était le président de la République qui a été assassiné?
Sadi Carnot, ils ont aussi jeté des bombes sur des terrasses de café.
Sadi Carnot, mais globalement, on avait un terrorisme qui visait plutôt des institutions. Là, aujourd'hui, on est quand même dans la terreur de masse, et parce que... Même s'ils essaieraient sans doute de viser des institutions, mais quand même, c'est un peu différent d'essayer d'assassiner un président de la République, parfois d'y réussir, ou de tirer dans le tas d'une foule innocente.
Ils estiment qu'ils sont dans une logique du talion, et oui, c'est pour ça qu'ils estiment que c'est légitime pour eux de faire ce qu'ils font.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Du grain à moudre d'été, 18h46 sur France Culture. On parle aujourd'hui de ce sujet, on pose cette question. Assiste-t-on à une uberisation du terrorisme? On en parle avec nos trois invités, Wassim Nasr qui est journaliste à France 24, Jean-Dominique Mercher qui lui est journaliste à l'Opinion, et enfin Jenny Raflick qui est maître de conférences en histoire contemporaine et auteur de Terrorisme et mondialisation, approche historique. C'était chez Gallimard. Ce qui est intéressant dans la discussion telle qu'elle se développait juste avant cette courte interruption, c'est qu'elle pose la question de la dimension transnationale finalement, Jenny Raflick, du terrorisme. Une dimension qui a toujours existé, à vous lire.
Alors, je vais juste revenir, si vous permettez, un instant sur la question des cibles. En fait, on a finalement la même logique. Un terrorisme ciblé, mais je me demande s'il ne l'est pas encore aujourd'hui, dans la mesure où on identifie finalement une cible... beaucoup plus large. Oui. Ceux qui se trouvaient dans les tours le 11 septembre sont identifiés au capitalisme, finalement, ou à l'impérialisme américain, et c'est en cela qu'ils sont, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient balayeurs ou chefs d'entreprise.
Ou du moins en dommages collatéraux.
Voilà. Les anarchistes ciblent des terrasses de café parce qu'elles sont vues comme un endroit bourgeois. Ils ciblent des salles de spectacle. Déjà, il y a un attentat en Espagne, deux bombes lancées dans une salle de concert. Parce que c'est vu comme un endroit de divertissement bourgeois. Donc on a des cibles qui sont aussi des cibles déjà assez larges.
La transnationalité.
la transnationalité, souvent elle découle un peu du mode opératoire aussi, hein, la transnationalité, des circulations. Alors, elle est sans doute favorisée aujourd'hui par la globalisation, par l'internationalisation des mouvements, des moyens de communication. Mais finalement, on la trouve dès le début, non seulement dans la violence terroriste, mais dans la violence politique de façon générale, parce que la violence politique fait l'objet de répression donc est souvent un objet, provoque l'exil, provoque des migrations, et finalement, la transnationalité va se retrouver à l'essence même de cette violence politique, dans sa dimension terroriste comme dans sa dimension révolutionnaire.
On a vu partager sur les réseaux sociaux un article assez intéressant qui a été publié sur le site de l'Obs récemment par un universitaire israélien, Yuval Noah Harari, qui parlait de stratégie de la mouche pour parler du terrorisme. Et c'est son idée, c'est de dire comment se fait-il que le terrorisme porte autant sur nos sociétés, alors qu'en définitive, à y regarder de manière froide, évidemment c'est toujours compliqué de le faire comme ça, mais de manière froide et rationnelle, il n'endommage pas les infrastructures, il fait relativement peu de victimes, encore une fois, c'est une façon qui n'est pas très heureuse de parler, mais malgré tout, qui est réelle quand on regarde, par exemple, je sais pas, la guerre en Syrie, par exemple, de ces dernières années. Comment se fait-il qu'il y ait un impact si important du terrorisme sur nos sociétés, Wassim Nasr?
Bah écoutez, parce que c'est tout à fait logique, tout à fait humain, parce que les sociétés en Occident, elles ne sont pas en guerre. Donc vous parlez de cet écrivain israélien, Israël est un pays en guerre permanente, et les gens sont beaucoup plus résilients à ce qui se passe. Là, on a témoigné d'un camion qui fonce sur une foule. En Israël, il y a presque toutes les semaines une voiture qui fonce sur des gens. Donc les gens sont résilients, ils sont habitués à un état de guerre, ce qui est le cas aussi en Cisjordanie, à Gaza et dans les pays arabes. En Occident, les gens, ils ont oublié ce que c'était la guerre. Même quand des soldats sont en mission, comme les 3 soldats qui sont morts en Libye aujourd'hui, l'opinion est choquée. L'opinion s'attend à des conflits avec zéro guerre. Ils oublient que la France, pour parler que de la France, est en guerre sur différents théâtres de guerre, contre différentes factions djihadistes, que ce soit au Sahel, que ce soit en Afghanistan, au Yémen, en Somalie, et qu'aujourd'hui, ces factions-là, ces gens-là, ont les moyens de répondre ici même en France, et ce qui a changé, c'est qu'ils répondent aussi avec des ressortissants français, ou du moins des résidents. Donc c'est ça aujourd'hui qui a changé par rapport au terrorisme du XXe siècle, où le danger, la menace, venait d'au-delà des mers. C'était des équipes envoyées. Aujourd'hui, ce sont des Français. Les frères Kouachi étaient Français. Les kamikazes du Bataclan étaient Français et Belges. Certes, il y avait 2 Irakiens, mais la majorité, c'était des citoyens européens. À Orlando, c'est un Américain. C'est ça qui a changé aujourd'hui. Et les gens, ils ont du mal à assimiler cela, comme ils ont tout autant du mal à assimiler qu'un ressortissant britannique puisse égorger, au nom de l'État islamique, son compatriote dans le désert syrien.
J'avais mis Mercher, cette stratégie de la mouche, c'est une stratégie véritablement militaire qui vise à modifier finalement une situation politique en répandant la peur. La mouche, parce que l'idée de Yuval Noah Harari, c'est une mouche qui rentre dans l'oreille d'un éléphant, puisque la mouche ne peut rien casser toute seule, elle utilise l'éléphant en lui faisant peur pour tout exploser.
Oui, c'est une image assez pertinente. Vous savez, on a coutume de dire que le terrorisme, c'est une arme de communication massive. Vous tuez quelques personnes, on parle en France depuis un an et demi de 250 morts, c'est quelques heures de la guerre de 14 tous les jours. Il y avait 900 morts par jour dans l'armée française pendant 4 ans, 900 morts par jour pendant 4 ans. Là, on a 250 morts en l'espace de 18 mois. Donc, on n'est pas du tout dans une guerre de très très haute intensité. En revanche, il y a un écho formidable parce que c'est une arme de communication massive qui utilise deux choses, qui utilise d'abord les médias. Nous en sommes non seulement les témoins, mais les acteurs de cette résonance qu'a le terrorisme. Et par ailleurs, une certaine fébrilité des politiques qu'on a pu encore observer cette semaine. En revanche, la résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter, à encaisser les coups et à les surmonter, je pense que la résilience des populations, notamment la population française, est très élevée. Il suffit de voir son comportement d'une grande dignité, son émotion contenu et son comportement d'une grande dignité face à ce qui se passe. Donc voilà, oui, les médias et les politiques réagissent fort, parfois dire surréagissent à ces événements, mais la population reste raisonnable et assez digne.
Jenny Raflick.
Le propre du terrorisme, c'est de répandre la terreur, hein. Donc c'est un objectif. Là, en plus, je pense d'autant plus avec ce qui s'est passé à Nice, il y a une identification très facile des Français, des familles. Chacun peut se projeter finalement dans les victimes potentielles et dans les cibles. Et puis, on est dans une société qui vise de plus en plus le risque zéro. On voudrait un risque zéro alimentaire, un risque zéro environnemental. Et finalement, ça vient nous prendre à contre-courant. de cette espérance sociale et de cette aspiration à la sécurité absolue. Donc ça vient déstabiliser aussi une société qui connaît la paix maintenant depuis longtemps et qui s'est bien enracinée dans la paix. Les générations actuelles sont nées dans un pays en paix et n'ont pas vécu la guerre.
Alors, il ne s'agit pas de sortir les boules de cristal, mais malgré tout, on peut s'interroger, on a vu d'ailleurs émerger cette idée dans différents articles de presse, sur une possible, j'allais dire, israélisation de la société française. On pourrait penser aussi à la société libanaise, Wassim Nasr, c'est-à-dire une forme d'habitude prise face à ces, même si on ne peut jamais vraiment s'habituer, mais voilà, de rentrer dans une forme de routine des attentats. Et donc, quelle pourrait être la réaction de la société française face à ça?
Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, il faut admettre que on est face à une situation où ce genre d'attaques peuvent se répéter et en même temps, des attaques comme le 13 novembre peuvent aussi arriver. Ça va de pair. Et il faut que les gens en comprennent. Et je pense que beaucoup de gens ont compris, comme l'a dit Jean-Dominique, parce que les gens ont compris à quoi on fait face aujourd'hui, que ça peut se répéter et que c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de vivre et que effectivement ceux qui surréagissent surtout ce sont les politiques hein, en fin de compte c'est à eux de garder leur calme et d'avoir un raisonnement stratégique à long terme. On peut pas demander ça de la population mais on peut l'exiger des politiques. Et en ce qui concerne les médias, bon, ça dépend des fois, mais aussi aujourd'hui on est face à quelque chose de nouveau où les mouvements djihadistes n'ont pas vraiment besoin des médias. Ça veut dire une vidéo de l'État islamique, décapitation, elle fait le tour du monde 100 fois et elle n'attirera jamais dans un journal, dans un JT. Et c'est pas pour autant qu'elle sera pas vue des millions et des millions de fois. Donc, il faut appréhender ce nouveau problème d'une nouvelle manière, d'une manière innovatrice, avec des nouvelles grilles de lecture et avec beaucoup de résilience et de calme, je pense.
Oui. Votre comparaison sur, enfin votre idée sur l'israélisation de la société française, moi je me méfie beaucoup de ça. Israël est un pays que je connais bien, j'y étais il y a peu de temps avec les forces de sécurité. Il ne faut pas du tout imaginer que la société israélienne ne réagit pas aux attentats. La société israélienne est une société occidentale exactement comme les nôtres, c'est-à-dire c'est un pays où dès qu'il y a le moindre petit tentative de poignardage, immédiatement tout le pays en parle. C'est pas du tout, il n'y a pas une indifférence en disant oui, ben encore un attentat, pas du tout. Les gens sont extrêmement sensibilisés, ne serait-ce que parce que c'est une armée de conscription et c'est les enfants de tout le pays qui sont dans l'armée ou dans les forces de sécurité. Donc non, il y a une grande préoccupation de la population israélienne par rapport, très comparable à ce qui se passe chez nous. En revanche, les méthodes qu'ils emploient sont différentes, mais le contexte est très différent. Il faut imaginer qu'Israël, c'est un pays qui vit enfermé derrière un mur de Berlin. Les frontières d'Israël, c'est le mur de Berlin. Il y a des barbelés partout. Et le seul point d'accès du territoire israélien, c'est l'aéroport de Lod Ben Gurion, qui est extrêmement sécurisé. On est dans un contexte géopolitique totalement différent. Nous sommes en Europe, avec des frontières ouvertes, avec de bonnes relations avec nos voisins. Il n'y a pas un mur de sécurité, comme on dit, entre la France et la Belgique.
Général Flick.
Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que le rôle des politiques est très important. Il y a deux façons de réagir pour les politiques. Soit ils exagèrent la menace, surdimensionnent finalement la menace pour essayer de créer une union nationale, parler de guerre, etc. Soit au contraire, ils essayent de calmer les choses, d'atténuer et de calmer un peu l'opinion. D'ailleurs, on a vu dans l'histoire un peu les deux politiques être menées. Je suis pas sûre d'ailleurs que l'une ait mieux fonctionné que l'autre. Donc, c'était en fonction d'intérêts politiques, souvent électoraux, à suivre. Peut-être qu'il faut réfléchir aussi à ce que vous disiez sur la question des vidéos. Il faut peut-être réfléchir aussi sur la façon du traitement, de traiter médiatiquement ces vidéos, parce que finalement, ça entretient la théorie du complot chez beaucoup de jeunes. Et comme ils n'ont pas accès par une presse intermédiaire, une presse qui servirait d'intermédiaire, parce que le journaliste, c'est un intermédiaire, finalement, dans le traitement des revendications des vidéos. Le journaliste va analyser, commenter, contextualiser. Du coup, ces jeunes vont chercher les vidéos par curiosité pour voir ce qu'on leur cache. Et là, peut-être qu'il faut réfléchir aussi à ces questions de traitement médiatique.
très rapidement aussi.
On a même travaillé sur ce sujet très précisément à France 24. On a fait plusieurs vidéos adressées aux jeunes pour essayer de qu'ils comprennent que les médias sont ici pour les informer, pour leur donner les clés de l'information sur Internet pour échapper aux théories du complot qui surgissent à chaque fois. Il y a eu Charlie Hebdo, on a eu une théorie du complot, 13 novembre pareil, et là c'est exactement pareil. Là sur les réseaux sociaux, c'était des agents étrangers qui agissaient au nom de je ne sais quel service d'enseignement.
Merci beaucoup Wassim Nasr. Je rappelle que de vous on peut lire État islamique, le fait accompli, c'était chez Plomb. Merci Jean-Dominique Mercher. On peut vous lire dans l'Opinion et sur votre blog dont j'ai oublié le
Secret Défense.
Secret Défense, merci. Et enfin Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation, approche historique. C'était publié chez Gallimard. Merci également à toute l'équipe qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Alexandre Agège, Aurélie Marsay, Catherine Denet et Tanguy Omri. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anne de Pelchin. À la technique, Nicolas Delmas. Le Grain à Moudre d'été, c'est à réécouter et podcaster sur franceculture.fr.